Donc bonjour à tous, il y en a certains que je connais, d'autres que je ne connais pas, donc on va faire connaissance ce matin. Je m'appelle donc Cécile Goy, je suis enseignante-chercheure avec Emmanuel dans la même équipe formative et dans la même équipe de recherche à l'université de Tours. Avant cela, j'ai été pendant plus de 20 ans professeure des écoles, enseignante auprès des nouveaux arrivants dans le département de l'Indre-et-Loire, et coordonnatrice du département pour le premier et le second degré, où on a mis, conçu, élaboré et mis en place avec mes collègues de l'équipe de l'Indre-et-Loire, mes collègues de l'époque, le dispositif d'accueil dans le premier et le second degré pour les nouveaux arrivants. Voilà, donc je te passe la parole. On aura le temps de rediscuter plus longuement au fur et à mesure.
Donc, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Huvert. On a déjà eu l'occasion de se connaître depuis deux jours. Je suis donc maître de conférence à l'université de Tours. Et avec Cécile, on travaille entre autres sur un projet de recherche qui s'appelle Paradis. Donc,
parcours d'apprenants, altérité et diversité.
Voilà, donc avec l'idée, entre autres, d'aller dans des classes, de filmer un certain nombre d'événements qui peuvent s'y passer pour suivre les enfants nouveaux arrivants et surtout pour que ces supports de vidéo servent de support pour des entretiens avec des enseignants de français langue seconde, mais aussi des enseignants de classe ordinaire, voire avec certains des enfants qui accepteraient aussi de relire leur parcours au travers des extraits qu'on pourrait leur présenter. Voilà, donc ce qu'on va présenter ce matin s'inspire en partie de ça, mais pas uniquement.
Oui, alors il est vrai que l'objectif, on a un double objectif sur ce projet-là, qui est un objectif, je dirais, purement de recherche, hein, et un objectif à visée formative, c'est-à-dire qu'à partir des éléments de recherche que l'on va mettre en avant, on aimerait pouvoir en faire un outil formatif à destination des enseignants, bien sûr, mais aussi à destination des formateurs, CASNAV ou autres, qui pourraient l'utiliser dans leur formation pour échanger avec les enseignants spécifiques. Mais c'est pas forcément avec les enseignants spécifiques que c'est le plus problématique, c'est plus avec les enseignants des classes ordinaires qui accueillent dans leur classe des nouveaux arrivants, voire, c'est pas notre problématique, mais on est dans une problématique d'altérité, de diversité, donc voir aussi des enfants du voyage, voir d'autres types d'altérité ou de diversité linguistique, culturelle ou plus largement sociale. Donc aujourd'hui, ce matin,
ouais.
On a plusieurs objectifs. Tout d'abord, ensemble, mais principalement avec Emmanuel, dont c'est un des axes principaux de recherche, faire le point sur la notion d'évaluation, problématiser ensemble les liens entre l'accueil des nouveaux arrivants, les questions d'évaluation et de manière plus large, l'évaluation dans un contexte de diversité, diversité langagière, diversité des parcours et diversité des types d'apprentissage. Et l'idée, alors c'est une idée, mais c'est pas...
Une injonction.
Voilà, c'est pas une injonction, c'est de réfléchir à la manière dont on pourrait, de manière assez succincte, mais en tout cas synthétique, élaborer un répertoire de besoins de formation autour de la question de l'évaluation et d'une manière qui est un petit peu plus, qui sera un peu plus accessoire, mais qui évidemment y est liée, à l'orientation.
Sachant que, comme ça n'est pas une injonction, on peut tout à fait, au moment des ateliers, réorienter les choses en fonction de ce qui vous intéresse et partir sur l'élaboration, éventuellement, de débuts de modules de formation ou des choses comme ça aussi. Tout dépend de la manière dont vous voulez un peu infléchir les choses. Donc, on va d'abord ensemble travailler, alors on a appelé ça, c'est assez rapide, un travail sur les représentations. Donc, pour commencer par une activité autour de cette question de l'évaluation et la manière dont vous la représentez, vous l'appropriez et vous la travaillez. On va faire un rapide point théorique sur la notion d'évaluation. simplement, alors pas pour faire un point théorique en tant que tel, mais simplement pour poser un certain nombre d'enjeux autour de cette question, et puis de mettre aussi l'ensemble en perspective, on va dire, historique. Et puis on va surtout, on a choisi de laisser un long temps de travail en atelier pour justement avoir le temps de travailler plus en profondeur sur des possibilités d'élaboration, donc soit de répertoire de ressources, soit de modules ou d'activités de formation.
Alors ces ateliers, on en a prévu deux. Un premier sur la question de l'évaluation des nouveaux arrivants autour de la question des tensions entre des éléments de prise en compte des programmes, et j'y reviendrai, donc je ne veux pas déflorer complètement le sujet pour le moment, mais on y reviendra. Comment arriver à permettre à un nouvel arrivant d'évaluer ses progrès par rapport à lui-même et en même temps à l'institution de pouvoir le cadrer par rapport à la norme scolaire, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un enfant du même âge ordinaire, si on peut dire ça comme ça, et un atelier 2.
Donc autour de la question de l'itinéraire, du parcours et du suivi des élèves, les questions que ça pose en matière d'évaluation, et ce que je trouve plus intéressant de poser dans ces termes, de reconnaissance des acquis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit, pas seulement d'évaluer au sens de noter, etc., mais plus largement, qu'est-ce qu'on choisit, ou qu'est-ce qu'on peut, ou qu'est-ce qu'on nous, ou qu'est-ce que l'institution appelle à reconnaître, et du coup, en creux, qu'est-ce qu'elle ne reconnaît pas, et qui serait peut-être souhaitable de reconnaître, ou en tout cas, en termes de formation d'enseignants, de les amener à réfléchir justement sur les points aveugles de ce qui n'est pas pris en compte, ce qu'on ne regarde pas chez les élèves, et au contraire, ce qu'on valorise, ce qu'on survalorise, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est les deux ateliers. Comme on va travailler au début sur les représentations, si dans cette discussion-là émergent d'autres besoins et qu'éventuellement il est... vous souhaitez mettre en place, soit qu'un des deux ateliers ne vous intéresse pas, soit que vous souhaitez en mettre en place un troisième, on peut tout à fait imaginer de le mettre en place. Bon, on se débrouillera pendant la pause pour bricoler, au sens noble du terme, quelque chose. Mais c'est, là encore, ce sont des propositions et ce n'est pas fermé. On peut tout à fait envisager, dans la mesure de nos possibilités, d'improviser un troisième atelier si vous en avez besoin.
On envisage ce troisième atelier. La chose sur laquelle on va improviser, c'est le thème, en fonction de ce qui émergera ou n'émergera pas, d'ailleurs, du travail qu'on aura fait ensemble au tout début.
Et puis donc, l'après-midi, après la pause, sur l'heure qu'on aura à peu près, c'est ça, l'idée, c'est de mettre en commun, évidemment, ce qui aura été dit dans les différents ateliers. Donc, ça veut dire aussi que dans les ateliers, il faudra se prévoir une quinzaine de minutes de travail de synthèse, un peu, pour ensuite, l'après-midi, présenter aux autres groupes ce que chaque atelier aura produit ou réfléchi. Alors bon, du coup, on a mis élaboratoire du répertoire de besoins de formation, mais c'est assez large, et la mise en commun peut évidemment... toucher d'autres thématiques et d'autres questions.
Sur ce déroulement de journée, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez intervenir en disant « bah ça, on a déjà vu » ou « on sait bien » ou « ça, ça nous intéresse plus » ou est-ce que vous avez des remarques, des critiques, des demandes à faire ? C'est le moment, après ce sera trop tard. Ça vous convient ? Bon, okay. Allez, c'est parti. On y va comme ça. Alors, on va commencer par une activité par groupe autour d'une technique que peut-être certains d'entre vous connaissent. Technique qui n'est qu'une technique, hein. Donc on est bien d'accord, c'est une technique qui est critiquable, qui est critiquée, mais qui est parfois utile à deux titres. Aujourd'hui, elle sera utile à deux titres, c'est-à-dire qu'elle est utile pour réfléchir ensemble ou collectivement ou par petits groupes à ses propres représentations, et elle est utile en tant que formateur, puisque ça peut être aussi un outil à utiliser pendant les formations avec les personnes que vous avez en formation ou pas. Est-ce que je crois qu'il y a plusieurs types de personnes et de statuts. Il y a des enseignants de classe et il y a des formateurs parmi vous ? Les deux. Si ça ne vous ennuie pas, vous pouvez me dire qui est enseignant de classe. et qui est formateur. Tous les autres.
C'est une formation de formateur.
Oui, donc, c'est ce que j'avais compris.
Avoir une classe, mais forcément dans le stage, ils ont une charge de formation.
D'accord. Donc vous, même ceux qui ont une classe ont des fonctions de formateur.
Oui.
Pas forcément. D'accord. Ok. Mais peuvent être amenés, après une formation comme celle-ci, à le devenir. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc, en fait, on va travailler autour de la question, autour de l'outil du blason. Certains d'entre vous connaissent cet outil-là ? Bon. Le blason, c'est un outil d'approche biographique qui travaille sur les questions symboliques et sur la représentation. Je vous ai mis juste un beau petit... Une petite citation de Pascal Galvani qui a beaucoup travaillé sur la question du blason en auto-formation et qui indique qu'en héraldique, le blason, ça signifie bouclier, gloire, mais aussi beau langage pour célébrer, c'est-à-dire qu'il utilise cette dimension-là. Enfin, tous les formateurs qui utilisent le blason dans les approches biographiques mettent en avant des dimensions symboliques et des représentations qui peuvent mettre en avant la question de l'imaginaire. En distinguant l'imaginaire dans ce travail-là de ce qu'on peut entendre dans les imaginaires linguistiques, par exemple les imaginaires des langues, on n'est pas du tout là-dessus. Hein. On est vraiment sur la dimension symbolique, comment on se représente dans l'idéal un certain nombre de choses. Donc c'est un petit peu là-dessus que nous allons commencer, par là qu'on va commencer ce matin, et c'est par là aussi, où, avec cet outil-là, qu'en tant que formateur, on peut travailler avec un groupe à plusieurs niveaux, sur les représentations individuelles. Pour constituer un groupe, il est intéressant que le groupe puisse identifier quelles sont les représentations qui traversent ce groupe-là, dans le terme de cohésion de groupe. Là, c'est différent, ce ne sera pas l'usage et l'utilité aujourd'hui, puisque nous arrivons en fin de formation, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi dans une première approche de construction d'identité de groupe. Voilà. Donc la méthode, elle a deux objectifs. Élucider ses représentations par rapport à soi-même et par rapport à un sujet, c'est-à-dire que le blason, on peut l'utiliser sur n'importe quel thème. Alors, il y a des thèmes qui sont pertinents, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On peut très bien se dire, voilà, le blason, moi en tant qu'enseignant, bon là, ce sera en tant qu'évaluateur, en tant que formateur, c'est quoi un bon formateur, c'est quoi un bon enseignant des ENA, voilà. Hein, donc, on peut travailler autour du blason avec les mêmes consignes, mais en ayant, je dirais, une consigne inaugurale ou un thème premier qui est particulier à l'objectif que l'on poursuit. Et puis, ce sera un petit peu le cas aujourd'hui, mais d'une manière moins importante que vous ne pourriez l'utiliser en formation, prendre conscience ensemble des représentations collectives et individuelles d'un groupe. Voilà. Alors, concrètement, ça se présente comme ça. Dans chaque blason, il y a au fronton une devise. Quatre difficultés, deux moyens. Ne me demandez pas pourquoi il y a quatre difficultés, deux moyens, et pas quatre moyens, deux difficultés, ou pas quatre et quatre. Je l'ai utilisé tel qu'il est présenté dans l'ouvrage de Pascal Galvani. Une image ou un symbole, deux références, deux qualités et un truc au choix. Alors au choix, ça veut dire que si vous n'avez rien, vous mettez rien. Mais si vous avez un truc qui vous donne envie, de n'importe quel ordre, vous pouvez le mettre là. Alors, on y reviendra. Je vous explique juste la consigne. Notre idée aujourd'hui, c'était de réfléchir au blason qui célébrerait en beau langage ce qu'est un bon évaluateur d'ENA. Alors, quand on a fait la diapo, on a mis les guillemets avant 1 et à la fin de A, mais en fait, on aurait mieux fait de mettre un bon évaluateur d'ENA. c'est pas grave. L'idée, c'est comment ferions-nous ou feriez-vous pour dresser... Alors, je dis ferions-nous parce que Emmanuel et moi, on a l'intention de faire l'exercice. On ne l'a jamais fait. On travaille toutes les deux de manière différente, surtout Emmanuel, hein, sur l'évaluation plus généralement et moi plus sur Emmanuel sur le français langue étrangère et moi un petit peu plus sur le FLS, mais on n'a jamais fait cet exercice. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de voir, nous qui travaillons ensemble et sur les problématiques proches, comment on fait ça, ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Donc l'idée, c'est de travailler là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qu'un bon évaluateur d'ENA, et de compléter, autant que faire se peut, ou que vous en ayez l'envie, le blason de formation. À l'issue de ça, on les scannera, plutôt que d'avoir un rapporteur qui va rapporter, qu'on va passer les uns après les autres, et que du coup ça va être long et qu'on va peut-être pas en tirer grand-chose, on a pour les scanner et qu'on puisse les montrer et que chacun puisse intervenir sur ce qu'on a vu là. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de le remplir en entier. Emmanuel me rappelle quelque chose. Pour identifier les besoins de formation, on s'axera principalement sur les moyens et les difficultés pour retravailler sur éventuellement l'atelier numéro 3 dont on décidera ensemble s'il est pertinent, pas pertinent et sur quel thème il serait opportun de le faire fonctionner. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui ?
C'est l'ensemble. C'est l'évaluation en tant que problématique transversale à l'accueil, au suivi et à l'insertion, à l'intégration des enfants.
D'autres questions, remarques, critiques éventuelles ? Bien ! Alors là, on arrête. Marie-Odile va ramasser les blasons pour les scanner. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse en attendant de voir en grand les blasons dans leur intégralité, c'est de faire un petit point rapide sur quel regard vous portez sur un exercice comme celui-ci. Est-ce que ça vous paraît un exercice intéressant pour vous ? Et est-ce que ça vous paraît un exercice intéressant pour d'éventuels enseignants en formation ? Et quelles en sont les limites, les intérêts Enfin, c'est comme vous voulez, tout le monde n'est pas obligé de s'exprimer, hein, mais ceux qui veulent s'expriment. Mais c'est un outil qui vous semblerait pertinent à utiliser en formation.
Non, c'est surtout qu'en plus, non seulement il y a le temps de la conception, mais après, là, par exemple, je pense qu'on va manquer de temps pour la mise en commun.
Voilà, on va être frustré.
Alors, une demi-journée.
Voilà. Il faut compter, sincèrement... pour l'avoir mis en œuvre, je le disais à certains groupes, c'est intéressant de commencer par un blason individuel qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire les gens le font s'ils veulent, et pour lequel il n'est pas obligé non plus de le transmettre aux autres ou de le communiquer. Ne le communique que les gens qui veulent bien, parce que c'est relativement intime dans un certain nombre d'éléments, puisque c'est symbolique. Et c'est intéressant de travailler longuement dessus, effectivement, au moins sur une demi-journée, voire plus, hein, et il y a des éléments d'analyse qu'on ne va pas traiter là aujourd'hui, puisque c'était plutôt un déclencheur et à la fois un outil qui peut être utilisé après, donc on ne va pas faire l'analyse dans l'intégralité, mais il y a des outils d'analyse des blasons qui sont tout à fait intéressants sur la place des autres, de soi, de l'environnement, sur lequel on peut aller plus loin. Je crois que quelqu'un d'autre voulait intervenir. Et c'est vrai que l'idée de négociation et de compromis dans un exercice comme celui-ci, il est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être aussi précis sur des impressions qui sont les nôtres, qu'on, si c'était que pour soi, ce serait relativement flou. Là, on est obligé d'argumenter. Et en même temps qu'on argumente, on construit son argumentation et du coup, on se met au clair avec ses propres représentations et avec celles des autres. Donc effectivement, le fait de travailler en deux temps, d'un côté individuellement puis d'un côté collectivement, c'est quand même très intéressant. Alors, j'ai demandé à certains, au passage, de noter les trois items sur lesquels, qui vont nous permettre... pendant que Marie-Odile s'occupe du scan, d'anticiper ou de voir ensemble quel, si on fait un troisième atelier, quel serait ce troisième atelier. Donc on a choisi de vous demander de rendre compte de la devise, des difficultés et des moyens que vous avez repérés, en sachant que les autres sont tout aussi intéressants, mais qu'il faut qu'on fasse un choix aujourd'hui, hein, et que les autres sont d'un autre ordre. Parce que vous voyez derrière nous qu'il y a des tas d'éléments qui sont de l'ordre de l'idéal, c'est-à-dire comment on se projette dans l'idéal d'un point de vue symbolique imaginaire. Donc la question de la devise, mais qui du coup est un petit peu le chapeau général. L'image, le symbole, les références, les qualités, on va les mettre de côté, même si on les verra, on ne va pas discuter de ça là. Et les pratiques, puisqu'on est dans une perspective pratique, en tout cas pragmatique, comment on peut mettre en place, distinguer, identifier des besoins de formation autour de l'évaluation. Et donc là, on sera sur la notion des difficultés et des moyens. Et si vous avez identifié dans les autres ou dans les choix quelque chose qui vous semble important à dire là parce que c'est de l'ordre des besoins de formation, vous le dites en même temps. Donc on fait un tour de table juste sur ces trois éléments-là.
Alors comme devise, on a une devise qui commence par accueillir, accompagner et trois points d'interrogation qu'on vous soumet. Donc il nous manque un terme pour essayer d'exprimer une idée qu'on a déclinée avec intégrer, orienter, inclure, rendre compte ou lâcher, émanciper, permettre de grandir, permettre de s'émanciper, permettre de s'intégrer, enfin voilà, autonomiser, ça pourrait, oui.
Par rapport à autonomiser et émanciper, c'est toujours quelque chose qui viendrait de l'évaluateur. Or, autonomiser, etc., ça vient plutôt de l'apprenant.
Donc nous, c'est l'aboutissement de la discussion, mais qui ne fait pas unanimité. C'est soit à l'écoute, entre parenthèses, non, entre parenthèses, et de toi-même.
Alors, nous, notre devise qui a fait l'unanimité, c'est accueillir, écouter, être bienveillant. Mais je dois préciser quand même que nous nous sommes situés par rapport au premier bilan d'accueil, puisque nous avons considéré, après une courte réflexion commune, que lorsque nous accueillions et que nous vérifions un bilan de la scolarité dans le pays d'origine de cet élève qui arrive avec sa famille, nous ne pouvions pas évaluer, puisque c'est un terme qui correspond à la culture scolaire française. Donc, on se situe à ce premier bilan au cours duquel nous allons proposer une affectation à l'inspection d'académie qui sera justifiée par le commentaire qu'on fera de ce bilan. Voilà. Eh bien, lorsqu'un adolescent a 15 ans et qu'il y a un écart de compétences, c'est-à-dire que, par exemple, il a des compétences que l'on pourrait rapprocher de celles du CE2 ou du fin de cycle 3, nous proposons la classe la plus en rapport avec son âge, donc c'est 4e ou 3e, et dans le commentaire, nous signalons que durant la première année, l'objectif sera de réduire cet écart de façon à ce qu'il soit capable d'avoir des compétences de palier 1 et puis après palier 2.
Oui, donc l'idée c'est bien que l'évaluation diagnostique permet d'évaluer les acquis antérieurs et donc le projet pédagogique pour l'enfant, et non pas de l'attribuer en orientation à une classe d'âge qui correspondrait à son niveau scolaire.
Absolument. D'accord. Absolument.
Donc, c'était juste pour faire bien préciser ça.
Mais c'est vrai que évaluation diagnostique, moi, ça me gêne toujours, parce que le diagnostic, c'est le médecin qui le porte. Et que évaluation, c'est un terme de culture, voilà.
Mais je crois
qu'on vérifie pas grand-chose en fait. On vérifie s'il y a une scolarité, s'il y a une proximité avec l'écrit, s'il y a une proximité avec la culture française qui consiste à vérifier la compréhension d'un écrit, et s'il y a des savoir-faire en mathématiques. C'est tout.
D'accord. Après, ça, c'est des choses qu'on pourra aussi repréciser dans le point théorique.
On est sur les élèves. Alors, nous avons ENAF un jour, mais pas toujours.
Alors, pour ce qui est de notre groupe, je ne sais pas si on va être évalué. Si on est évalué, nous sommes les derniers de la classe. Donc, en fait, on s'est dit dans la démarche qu'on allait terminer par la devise, puisque la réflexion préalable nous permettrait d'être bien plus au clair par rapport à ça. Et puis, évidemment, on n'a pas fini, donc on n'en est pas à la devise, mais on trouve tout ça très bien. Moi, on était bien sur des choses comme accueillir, dans l'idée du continuum de l'accueil, l'évaluation, la scolarisation, etc.
Alors, nous, on est parti aussi sur ces idées d'accompagnement, d'accueil, mais on s'est dit, il ne faut pas rester tout le temps que dans l'empathie, parce qu'une évaluation, à un moment... ça doit attester d'un niveau, enfin, même si on n'est pas forcément d'accord sur ces niveaux. Donc on est parti sur la devise « accompagner et valider ».
Donc on avait identifié quatre, puisque ça consigne une difficulté. Donc la première qu'on a mise en regard du moyen, enfin, je vais peut-être parler des deux autres qu'on n'a pas mis en regard de moyen. Donc il y en a une, c'était les langues qu'on a bien veillé à mettre au pluriel, puisqu'on a dit que c'était pas seulement la question des langues, de la langue de l'élève ou des langues de l'élève, mais aussi celle de l'enseignant, etc., etc. Donc, cette question des langues. La deuxième difficulté, c'était la décentration linguistique, notamment par rapport à la norme écrite, mais aussi décentration culturelle et aussi ce qu'on a appelé décentration formative, c'est-à-dire avoir un point de vue décentré sur le parcours de scolarité, de culture éducative, etc., de l'élève. Ensuite, troisième difficulté, la tension. On s'est rendu compte, en fait, de manière générale, que les difficultés, c'était ce que disait Michael, en fait, ce qu'on identifiait, c'était plus des conflits ou des tensions. Donc, les deux dernières, on les a rédigées dans ces termes-là. Donc, tension entre suivi et certification. Donc, avec l'idée que d'un côté, on accompagne, on essaye de rendre compte de ce suivi, de cette trajectoire. Et puis, de l'autre côté, il y a la certification, que ce soit la certification type DELF, mais aussi les certifications du système scolaire français, le brevet, etc., etc. La dernière difficulté, c'était la tension entre la complexité du parcours de l'élève, de son répertoire langagier.
De ses habiletés globales, c'est-à-dire entre ce qu'il sait faire à l'oral, à l'écrit, la manière qu'il a de communiquer autrement que linguistiquement, par la langue, ses habiletés sociales, son rapport à la norme, à la règle. Tout ça, c'est très complexe parce que c'est beaucoup de choses à la fois qui disent plus du pronostic de son insertion réussie dans le système scolaire que des éléments purement linguistiques, et qu'en même temps, on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des outils qui nous permettent d'évaluer la complexité des réussites en situation ou des éléments en situation qui prennent tous ces types de registres en œuvre.
Voilà, donc la tension du contre cette complexité et puis une forme de réduction qui est un peu inhérente à l'évaluation. Donc ce qu'on a mis en face comme moyen autour de la tension entre suivi et certification, c'était leur donner le temps et aussi prendre le temps, notamment prendre le temps à l'institution et réclamer ce temps à l'institution pour justement avoir le temps de mieux appréhender cette complexité. Voilà.
Donc en fait, ce que vous avez noté donc dans les difficultés, c'est presque plus un enchaînement de réflexions en fait, et puis une gradation quelque part aussi, hein. Puisque ce qu'on a pointé d'abord comme difficulté, c'était la communication avec l'élève. Alors après, en fait, c'est ça qui est décliné dans la suite, en fait. Hein. Et d'abord, sur la connaissance donc on est parti aussi sur le diagnostic, sur l'accueil, etc., sur la difficulté donc de la connaissance des acquis antérieurs. Et ce qui, avec le lien à établir entre les acquis antérieurs, donc, et la norme scolaire attendue en fonction de son âge, etc. Donc c'est cette tension que vous avez appelée tension là dans le premier groupe qui se retrouve là. C'est Et c'est un autre point, parce que c'est pas exactement la même chose, c'est la maîtrise, enfin la difficulté à connaître la maîtrise, et on a appelé ça la réflexion, à défaut d'autre chose, mais c'est peut-être pas le bon mot, la réflexion de l'élève de sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il en sait, quelle est sa maîtrise à l'oral, à l'écrit, de sa propre langue à lui. Est-ce qu'il est expert ou voilà, ou rien, quoi. Voilà. Et puis la dernière, c'est la place et le sens des erreurs récurrentes. Alors là, je suis plus dans la perspective de l'enseignant de FLS, mais aussi de la classe ordinaire, qui voit des phénomènes voilà, qui sont des erreurs, qui sont récurrentes dans les travaux proposés, et qu'est-ce qu'il en fait, ou comment il les interprète. Est-ce que c'est lié à voilà, un défaut, à une difficulté scolaire, voilà, je vais le dire comme ça, ou est-ce que c'est un manque d'outillage dans la transposition, traduction, quoi. Voilà. Et donc dans les moyens, on était vraiment parti sur cette idée de communication encore une fois, c'est-à-dire la communication en équipe et le partage d'informations, d'observations, d'où la devise aussi à la fin. Hein, c'est-à-dire que ça se fait en fonction d'une norme, mais ça se fait aussi en partageant les choses. Et c'est peut-être ce qui manque, ça peut être aussi, alors ça paraît pas dans le blason, mais ce sur quoi on a du mal à travailler, quoi. Voilà, à faire avancer. Et puis accompagner, donc ça va de pair avec la devise, là, un jour, toujours, sur accompagner la sortie de la catégorie. C'est-à-dire que même la sortie, elle doit être de fait au départ, quoi.
Donc nous, on a 3 difficultés au lieu de 4. La première, c'est la projection. La deuxième, c'est l'ethnocentrisme scolaire en particulier. Et la troisième, c'est le syncrétisme. Donc la projection, c'est trop d'empathie, trop de sympathie. Voilà. L'ethnocentrisme scolaire, bon, bah, tout le monde comprend. Et puis, bon, syncrétisme, c'est plutôt être capable de discerner. Enfin, dans le positif, c'est ça serait savoir discerner des compétences. C'est une difficulté, c'est difficile quand on reçoit à l'arrivée la famille et l'adolescent de discerner des compétences liées à la scolarité en France alors que la scolarité antérieure est très différente, voire parfois inexistante ou chaotique, ou c'est ça. Okay. Ensuite, les moyens, formation et ressources.
Alors, les difficultés, ce sont les... Alors, les difficultés que rencontre l'évaluateur. Mauvaise connaissance du parcours antérieur, donc de l'ENA, c'est une difficulté, mais qu'il va essayer de remonter. Difficulté, c'est l'harmonisation avec la famille, les autres enseignants, les partenaires différents, être capable d'harmoniser. Difficulté également, inscrire l'élève dans une progression. Difficulté... La dernière difficulté, qui est une difficulté de communication au sens large, la communication, bien sûr, la langue, puisque c'est le premier objet, la communication avec les autres enseignants, voilà, au sens large. Hein. Et les moyens que nous avons, c'est ça? Alors, les moyens, qu'est-ce qu'on avait écrit là?
Évaluation...
Positive. Alors, les moyens, c'était avoir une évaluation positive avec l'élève, c'est-à-dire que voilà, on est sur ses connaissances, ses savoirs, et on part de là pour aller vers quelque chose.
Hein, donc pas identifier.
Déjà ce qu'il a, ce qu'il a, il a quelque chose. On s'appuie là-dessus. Et avec ce qu'il a, on peut avancer. Et dans les moyens que nous avons, on avait noté la formation, parce que la formation, c'est un moyen pour devenir un bon évaluateur.
On l'a pas complété parce qu'on a complété sur ordinateur. Donc, donc sur les difficultés, on a beaucoup parlé de la tension entre qui a été évoquée hein, par d'autres entre l'exigence d'évaluation institutionnelle sous forme de notes et l'évaluation différenciée formative par compétences qui se pratique davantage en dispositif FLS ou en accompagnement linguistique. La deuxième difficulté qu'on a évoquée, c'est celle de bien être au clair sur le quand, le pourquoi et le pour qui on évalue. Sachant que ben là, on a bien vu qu'on parle de différents moments. Certains parlent du diagnostic.
C'est pourquoi la raison ou pourquoi
le... Pourquoi ? En deux mots, pardon. Sachant que certains parlent du positionnement de départ, qu'il y a des enjeux, qui est adressé à différents interlocuteurs. Donc c'est bien important d'être au clair là-dessus, c'est pas toujours facile. Donc deuxième difficulté. La troisième, c'était la difficulté de communiquer, voire d'associer... en particulier l'élève et ou les parents à l'évaluation. Bon, c'est en particulier d'ailleurs en accompagnement. Hein. Alors là, on a évoqué un petit peu, l'évaluation institutionnelle par note, tout le monde la connaît, c'est... Elle a un des avantages qui est celui d'être simple et l'objectif est clair, c'est de positionner un élève par rapport aux notes de la classe, etc. L'évaluation par compétences, elle pose le problème de la compréhension par les familles, hein, même pour les Français. Hein, on connaît le problème des livrets de compétences en primaire, etc. C'est un petit peu tout ça. Hein. Comment on peut mieux associer finalement les principaux intéressés au système d'évaluation pluriel. Et enfin, c'était la difficulté de pointer du lien entre l'évaluation et l'apprentissage. Qu'on pourrait poser en termes d'efficacité ou d'utilité même de l'évaluation dans sa dimension formative. Par exemple, si on voulait provoquer, on pourrait dire qu'à force d'évaluer, on n'enseigne plus. Et que l'élève, à force d'être évalué, il n'apprend plus. Il ne fait qu'être évalué. Alors peut-être avec une piste, c'est comment faire en sorte pour que transformer l'évaluation en outil d'apprentissage. Ou intégrer l'évaluation, mieux intégrer l'évaluation à l'apprentissage. Ce qui est peut-être mieux. De manière à ne pas en faire des objets complètement distincts. Hein ? Voilà. Bon, ça nous a pris beaucoup de temps. Ce qui fait que sur les moyens, dans la mesure où ce sont de grosses difficultés, hormis les moyens qu'on connaît, à savoir la formation et les ressources, on n'est pas allé plus loin.
Alors, au niveau des difficultés, on est parti sur l'idée qu'il est difficile de concilier l'évaluation d'un travail produit et la prise en compte de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une tension aussi dans la perception de l'élève, de son évaluation, on juge un travail et lui peut se sentir jugé personnellement. Et nous aussi, quelque part, on évalue une personne parce que si on veut... justement connaître le parcours de l'élève, etc., ça veut dire qu'on évalue un travail, mais aussi une personne. Et comment concilier les deux tout en restant dans une justesse et une honnêteté, une objectivité dans notre évaluation, en fait. Alors, ça rejoint un petit peu cette idée. La deuxième difficulté, c'était justement de moduler, comment on peut moduler, ajuster une grille d'évaluation de manière différenciée, tout en restant dans l'équité entre les élèves. On a tous eu des grilles d'évaluation, bien sûr, pour des productions. Et en pensant à l'élève, on se dit, je peux pas respecter ce nombre de points, vu son parcours. Donc d'où aussi la troisième difficulté, qui est de concevoir un exercice et une tâche d'évaluation vraiment pertinent. Et ça, c'est très difficile, je trouve que c'est vraiment compliqué. Et souvent, on se rend compte que l'évaluation qu'on a conçue, en fait, n'évalue pas ce qu'on aurait voulu évaluer, ou ne nous sert pas à grand-chose, ni à nous, ni à l'élève. C'est assez compliqué. Et donc, c'est pour ça que aussi bien la grille d'évaluation que l'exercice en lui-même doivent être
conçus de manière vraiment pertinente. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être. Oui, juste une chose à propos de la grille. On s'accorde, on établit une grille, on considère qu'on a des... Voilà, on peut établir plusieurs grilles au choix également. On connaît les systèmes. Les élèves choisissent la grille qui s'adapte à eux. Et la grille reste... Ce sont toujours et encore des cases dans lesquelles on voit, on décide de voir certaines choses. Et qu'est-ce qu'on fait dont on voit, de ce dont on ne voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne regarde pas, qui est à côté et qui existe quand même ? Puis ces grilles, eh ben, ce sont des lignes, on les trace, on enferme aussi. Comment est-ce qu'elles peuvent être plus dynamiques et évoluer dans le temps? Souvent, on a cette tendance-là aussi, on s'accorde sur une grille qui correspond à une séquence ou à un devoir, et puis à l'emporte-pièce, on la reproduit aussi. On a cette tendance après à s'enfermer dans les grilles aussi, à en faire des barreaux, comme enfin, voilà, pour prendre cette image-là. Ce qui m'embête un petit peu avec les grilles. Au départ, elles sont bien conçues, mais elles criblent finalement la réalité, elles laissent beaucoup de choses aussi à côté, non prises en compte.
Donc au niveau des moyens, la grille d'évaluation par objectif qui rejoint l'évaluation positive, mais aussi éventuellement établir, enfin pas éventuellement mais forcément, établir des critères d'évaluation avec les élèves et donc je dirais presque démystifier l'évaluation qui est une espèce de truc sacré, une chaise gardée du professeur alors qu'en fait elle doit être concertée. Et donc ça permet de... Mais ça demande aussi une certaine maturité dans le parcours scolaire de l'élève. Donc on doit construire aussi la possibilité que peut avoir l'élève d'établir avec nous ses critères d'évaluation. Ce n'est pas toujours le cas.
Et là-dessus, je suis très intéressée parce que je me rends compte que ni les uns ni les autres, on a parlé de la question de l'auto-évaluation. Et que cette dimension-là, à la fois sur les grilles, mais aussi sur les outils, c'est-à-dire comment permettre à un enfant de s'auto-évaluer, notamment quand il est question de langue. Alors c'est vrai qu'on fait de plus en plus de travaux autour des enregistrements, du magnétophone, éventuellement des vidéos qui permettent l'auto-évaluation de l'enfant à partir d'une grille qu'on fait ensemble, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et ça me paraît probablement un des éléments à développer aussi dans ces éléments-là, parce qu'on s'est placés tous du point de vue de l'enseignant. Donc une évaluation externalisée finalement.
Mmh. Juste un petit détail encore, mais qui n'en est pas un finalement. Enfin, je me rends compte qu'en formation on en parle aux collègues et qu'on dit bon, indiquer également, penser également, indiquer aux élèves ce qu'ils peuvent faire pour avoir une bonne note, ce qu'ils peuvent faire pour réussir le devoir. Et c'est toujours un petit peu, c'est de l'ordre du secret. Vous verrez bien, oui. Réussira qui pourra. Et voilà, peut-être on peut aussi peut-être un peu songer à ça, donner les moyens aux élèves, leur indiquer clairement comment. Voilà, ce que tu disais un petit peu hein, tout à l'heure.
On va.
Je voulais juste, pour compléter aussi, qui est mis entre parenthèses, d'un système à l'autre. C'est-à-dire que les élèves ont vécu, s'ils ont été scolarisés auparavant, ils ont vécu un système d'évaluation. Et il faut qu'il y ait une forme de médiation pour passer d'un système à l'autre, parce qu'ils ont leur propre représentation et que voilà, tout ce travail est à faire.
C'est vrai que ça, c'est extrêmement important, parce que quand nous-mêmes, on essaye de se mettre dans l'idée, par exemple, de sortir de la note sur 20, on se rend compte à quel point on y revient extrêmement facilement. Donc ça montre bien à quel point ça modèle les imaginaires vraiment profonds, ces questions de cotation.
Et c'est vrai que cette médiation... aussi pour les élèves, elle est compliquée et elle est nécessaire à double titre. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à des élèves qui étaient de bons élèves, en tout cas évalués très positivement dans leur pays précédent, et qui se retrouvent en très grande difficulté en France en termes d'évaluation. C'est compliqué pour eux, à la fois d'accepter d'être mal évalués, mais en plus d'accepter l'idée qu'ils vont être évalués autrement. C'est-à-dire que quelle est la validité d'une évaluation critériée, par exemple, quand tout ce qui a fait leur scolarité antérieure, c'était une évaluation par notation et dans laquelle ils étaient très performants. C'est aussi difficile pour les élèves. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais on y reviendra dans le petit point théorique qu'on va faire de manière très rapide sur prévenir l'élève, on verra que Antibi, par exemple, a développé l'idée... il a fait des recherches là-dessus sur l'évaluation où on prévient les élèves de globalement ce sur quoi ils vont être évalués, voir le type d'exercice sur lequel ils vont être évalués, et il montre que évidemment la réussite est meilleure, bon, mais on pourrait penser que c'est un dévoiement de l'évaluation sommative, sauf que ils ont bossé pour réussir ça. Et que du coup, d'un point de vue cognitif, c'est un vrai bénéfice. Alors bon, il dit d'autres choses qui... Bon, Antibi dit d'autres choses qui sont plus critiquables, hein, plus contestables. Enfin, de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant.
Oui, bon, puis son idée que vous connaissez sans doute de la constante macabre qui a... Ouais. La constante macabre, en fait, c'est-à-dire la constante des mauvaises notes.
Bon, du coup, on va le faire la partie théorique dans le désordre. Mais c'est pas grave. Donc, hop.
On va partir d'Antibi, puis après, c'est Emmanuel qui prendra le relais sur les éléments.
Donc, on va remonter après, en fait.
Voilà.
Et puis, il y a un bout qu'on va pas faire, je pense.
Donc, c'est André Antibi donc, qui a fait des recherches, justement, sur ce qu'il a appelé la constante macabre. Et sur l'idée qu'il y a une telle pression sociale autour de l'évaluation, une telle pression institutionnelle dans laquelle les enseignants se trouvent pris, mais aussi les élèves, mais aussi les parents. C'est-à-dire que les parents, si vous leur dites qu'en CM2, vous êtes enseignant de classe ordinaire de CM2 et vous ne notez pas vos élèves, comment ça va se passer à l'entrée en sixième? Donc il y a aussi une pression familiale et sociétale autour de l'évaluation, notamment dans la porosité entre la société, le politique et l'école, où la culture de l'évaluation quantitative, même en politique, puisque les ministres sont notés, hein, les enseignants-chercheurs sont évalués au nombre de leurs publications. Donc on retrouve dans l'ensemble de la société, et notamment des institutions de l'éducation, à quelque niveau que ce soit, cette valorisation, voire cette hypervalorisation du quantitatif et du positionnement. Et tout ça, ça fait qu'il y a une pression tellement importante.
Oui, je complète d'ailleurs sur ça. Non seulement c'est une pression sur le quantitatif, mais c'est aussi un dévoiement des formes d'auto-évaluation existantes. Parce que si vous voyez dans l'entreprise, par exemple, où on propose des entretiens d'auto-évaluation aux salariés, on voit bien que la plupart du temps, c'est pas du tout dans une perspective de développement professionnel, par exemple. Donc c'est non seulement la pression du quantitatif, mais c'est aussi un dévoiement d'outils qui étaient censés au départ être pensés pour une émancipation et un développement professionnel ou personnel, qui sont réutilisés dans une logique, on va dire, néolibérale et managériale, et du coup qui prend un tout autre sens. Mais comme on utilise les mêmes mots, c'est comme plurilinguisme, du coup ça brouille très certainement, enfin très nettement le paysage.
Et le petit dessin qui est sur, je ne sais pas si c'est sur la quatrième de couverture. Enfin,
non, c'est dedans.
De l'ouvrage d'Antibi.
Ah non,
c'est cet enseignant qui, ouf, enfin, une mauvaise copie, j'ai eu peur que la moyenne soit trop élevée. C'est-à-dire que l'imaginaire de l'enseignant, qui serait l'enseignant, le bon enseignant, et donc le bon évaluateur serait celui qui est sévère mais juste, hein, donc c'est-à-dire qui met un maximum de carton parce que ça veut dire qu'il fait un bon enseignement si ses élèves ont une moyenne à l'arrache, ça reste encore extrêmement partagé, collectivement partagé. L'inverse aussi, c'est-à-dire « Oh, ces enseignants de français langue seconde qui surévaluent leurs élèves ?» et qui, ah, évidemment, avec lui, avec elle, il a 16, il a 17, tu te rends compte, c'est pas possible. Bon, voilà. Sans se poser la question de la pertinence de la note par rapport au travail proposé et aux apprentissages posés avant. Et cette dimension-là, elle est particulièrement importante quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on propose aux élèves de faire. Et je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quelle modalité d'apprentissage et de couplage avec l'évaluation on propose. Parce que très souvent, les exercices d'évaluation sont des exercices qu'on a déjà fait ou qu'on fait de cette manière-là dans les séquences d'apprentissage et on ne leur donne pas ce statut. Donc pourquoi pas, enfin pourquoi pas réfléchir à ça. Donc voilà, juste pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure.
Et puis sur Antibi, il y a une autre caricature, enfin un autre dessin qui est dans son bouquin. Bon, alors qui vire un peu au caricatural, mais qui est intéressant sur l'articulation entre la prise en compte des progrès et puis la norme institutionnelle, c'est des enfants qui courent en sport, donc ils font le tour du stade, quoi. Et donc ils sont chronométrés par deux profs. Donc bon, là où c'est caricatural, c'est qu'il y a le gentil et puis le méchant. Donc le méchant, il a la barbe, il fait la gueule, et puis l'autre, il est gentil, donc il sourit. Mais donc le méchant, entre guillemets, dit non, le gentil dit « Ah, super, il y en a 4 sur les 5 qui ont fait moins de 2 secondes ou je sais pas quoi, ou moins de 20 secondes. » Et l'autre qui dit « Oui, mais enfin bon, il y a quand même le dernier, il est à la traîne. » Donc c'est toujours à l'aune de quoi on évalue. Est-ce qu'on évalue les progrès et à l'aune d'un objectif qu'on se fixe, ou est-ce que c'est un peu ce qu'on dit aussi en didactique des langues autour du locuteur natif, c'est-à-dire que si on évalue les allophones, y compris les enfants nouveaux arrivants, à l'aune du locuteur dit natif qui n'existe pas et qu'on cherche désespérément, il risque pas de réussir un jour. Alors que de l'évaluer au regard d'un objectif donné et d'un descripteur de compétences, par exemple, ça change aussi le regard qu'on peut porter sur eux et que eux peuvent porter sur eux aussi.
Juste pour compléter, avant de te laisser la parole plus longuement, il faut savoir que ça se fait beaucoup dans les établissements privés, d'éducation privée, mais ça se fait aussi ailleurs. C'est-à-dire que la manière dont les enseignants sont évalués et donc notés par leurs responsables d'établissement, c'est la courbe de Gauss des notes des élèves. C'est-à-dire que si les notes obtenues par les élèves suivent la courbe de Gauss traditionnelle avec une moyenne à 13, c'est tout bon. Si c'est vers le bas ou vers le haut, c'est pas bon. C'est-à-dire que la manière dont les enseignants évaluent leurs élèves, les résultats des élèves aux évaluations, s'ils respectent cette courbe de Gauss avec cette moyenne, c'est pas l'écart, c'est vraiment la moyenne, à 12, 13, eh bien, l'enseignant va être bien évalué par le responsable de son établissement. Donc la pression va encore plus loin. Oui, Cyril ?
Et à l'inverse, il y a aussi la pression des... Alors, je parle à l'université, mais je crois qu'on trouve ça aussi au collège et au lycée. Il y a aussi la hiérarchie des disciplines qui fait que on donne trop de bonnes notes... Enfin, on sait que, par exemple, en art plastique, c'est censé être plus souple. Moi, je me souviens en sciences du langage, en FLE, où les enseignants avaient la réputation de noter de manière plus, soi-disant, plus souple. Il y avait des réactions qui étaient entraînées par des rivalités aussi disciplinaires en disant on voit bien qu'ils sont nuls puisqu'en plus ils évaluent super bien leurs étudiants quoi. Donc c'est des laxistes, ça c'est des choses qu'on retrouve, c'est des espèces de rapports de force qui dépassent les notes mais en même temps qui se répercutent sur les processus de notation.
En même temps c'est vrai
ça
aussi
nous conforte.
Que
ça
il
nous conforte.
Faut là on met en avant les travers. Maintenant, on pourrait penser qu'un bon évaluateur qui se rend compte que 80% de son groupe s'est ramassé et a des notes pourries à un exercice, il doit se dire « j'ai pas bien adapté mon exercice » ou alors « j'ai pas fait mon boulot dans les apprentissages précédents ». Donc il y a des enseignants qui croient, je dirais, à l'évaluation avec cette conviction qui est une conviction, je dirais... plutôt pleine de bonne volonté, aussi. Mais avec les biais et dans les biais qu'on...
C'est peut-être le cas.
Oui, on est bien convaincus de la chose.
Oui. Bon, en même temps, s'ils étaient convaincus, on serait au chômage technique, nous, donc.
Oui, parce qu'on n'aurait pas vraiment d'intérêt à y travailler.
Non, mais c'est évident, c'est évident.
Non, et puis, juste une anecdote... dans les prépas, pour dire des choses très, très crues, quand on sait qu'en prépa arrivent en classe préparatoire les meilleurs des classes de terminale et qu'ils se ramassent lamentablement et qu'en plus on leur dit qu'ils sont nuls, il y a quand même un problème. Et que les gens qui disent qu'ils sont nuls sont considérés comme l'élite du système scolaire du point de vue des enseignants. Ça pose problème. Mais bon, on ne va pas... aller plus loin. Je laisse la parole à Emmanuel.
Très rapidement, parce que je suis sûre que vous avez envie d'une pause, et puis l'intérêt, c'est surtout les ateliers. Je vais aller très très vite là-dessus. Je voulais juste remettre en perspective historique la manière dont s'est construit le champ de l'évaluation, notamment en sciences de l'éducation. Alors, c'est en même une perspective historique, mais bon, on va dire qu'il y a à peu près trois périodes, sachant que actuellement elles se superposent. Ça ne veut pas dire que la première période est terminée. Et actuellement, dans les pratiques, on va voir que ça se superpose. Donc, il y a eu un premier moment autour de l'évaluation qu'on a appelé l'évaluation mesures, et donc où on a donné la priorité aux produits, où on s'est centré sur les outils et les techniques. Donc l'idée, c'était d'essayer de produire des outils d'évaluation aussi fiables, aussi objectifs que possible. Alors là, je parle des sciences de l'éducation, mais je pense qu'on retrouve ça, par exemple, aussi dans l'orientation. J'imagine qu'on... donc avec l'idée d'une figure de l'évaluateur qui serait objectif, qui serait externe, qui serait expert, donc qui se passe en position de surplomb et qui sait. Voilà. Donc ça a été donc ce mouvement. Oui, non, mais ça, le PowerPoint, moi je vous le donne. Hein, c'est non, le PowerPoint vous sera mis à disposition. Donc c'est pas la peine de noter. Voilà. Donc cette idée, elle est aussi née autour de la docimologie, donc de Pierron, qui avait mis en avant en faisant... bon, vous connaissez certainement un peu tout ça. Si vous connaissez, vous m'arrêtez. Hein, mais donc, où il avait donné un certain nombre de copies à faire corriger à différents évaluateurs. Et on s'est rendu compte que, évidemment, ça, il y avait des montagnes et que la personne qui avait été admise à l'agrégation par l'un était refusée par l'autre. Donc, ça avait des conséquences assez importantes, y compris en termes de déconstruction du mythe républicain de l'accès par les concours aux hautes fonctions.
Et y compris dans les sciences dures. C'est-à-dire la docimologie ne concernait pas que la philo
et le français,
et l'expression écrite ou les dissertations, mais aussi les mathématiques, et notamment des mathématiques avec des épreuves avec barème.
Enfin, ça, c'était dans un deuxième temps. Mais oui, effectivement, tout ça, bon, petit à petit, a été mis effectivement avec l'idée de mettre en exergue les biais qui agiraient sur l'évaluation. Ça a ensuite été critiqué pour sa conception, on va dire, mécaniste, hein, et puis sur la survalorisation donc des acquisitions cognitives au détriment d'autres formes d'acquis, et puis sur le fait qu'on se centrait sur la faute, hein, dans ce type de paradigme, on va dire. Le deuxième courant autour de l'évaluation, ça a été un courant qui est le courant de la gestion ou de la régulation, ce qu'on a aussi appelé l'évaluation formative, sachant que dans l'évaluation formative, il y a aussi différents types de courants sur l'évaluation formative. D'une évaluation formative, on va dire, qui boucle sur elle-même, c'est-à-dire que le formatif, ce serait de diagnostiquer une difficulté et puis de faire refaire à l'identique, à l'élève, le même type d'exercice, hein, jusqu'à des évaluations beaucoup plus, on va dire, temporalisées, sur le temps, qualitatives, auto-évaluatives, co-évaluatives, etc. Donc ça va d'un bout à l'autre, sachant que ce qui a été retrouvé par les historiens de l'évaluation, on va dire, ou les épistémologues de l'évaluation autour de ça, c'est que dans tout ce paradigme-là, au-delà de cette variété de mise en œuvre et de conception de l'évaluation formative, ce qui était la priorité était essentiellement accordée aux procédures, c'est-à-dire pas au produit fini, mais à la manière dont l'élève s'y prend, et puis très centrée sur les pratiques, avec l'idée qu'évaluer, c'est gérer. Hein, donc on pose un diagnostic, on gère la difficulté, on repose un exercice de remédiation, etc., etc. Avec aussi cette idée de partage du pouvoir, hein, c'est le début de l'auto-évaluation. Et puis avec cette idée d'aller au-delà du scolaire, c'est-à-dire aussi de prendre en compte d'autres aspects que les aspects essentiellement scolaires des apprentissages des élèves. Ce qui a été reproché à ce type de conception de l'évaluation, c'est que c'est un discours, c'est ce qui a été dit, c'est que c'est un discours gestionnaire puisqu'il s'agit de réguler, et puis un discours souvent clivant, dans le sens où j'ai cru que tu voulais parler.
Non, excuse-moi.
Souvent clivant, dans le sens où on sépare l'évaluation de l'enseignement. Voilà, avec tout ce qui a été dit aussi un peu tout à l'heure, hein, sur le fait que du coup, c'est aussi le gestionnaire, l'entrepreneurial, l'évaluation sous cette forme-là, qui envahit le discours éducatif et l'espace éducatif. Alors, il y a un nouveau paradigme qui est en cours de conceptualisation. Donc on est bien d'accord que tout ça, à l'heure actuelle, se superpose dans les pratiques. Hein, c'est-à-dire que, mais j'y reviendrai, notamment en didactique des langues, mais on retrouve ça aussi pour le français langue seconde. Le côté mesure avec la fiabilité des outils, l'évaluateur objectif externe expert, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement à l'heure actuelle et de manière, à la rigueur, presque plus forte, j'aurais tendance à dire, qu'il y a une dizaine d'années. Hein. La certification par le DELFE et de ce point de vue, l'introduction du cadre européen commun de référence, même si par ailleurs, ça a des aspects positifs en termes de, justement, de proposer des descripteurs et donc de pas évaluer les élèves à l'aune du mythique locuteur natif qu'ils ne seront jamais, pas plus que aucun d'entre nous d'ailleurs. Donc ça, cet avantage-là, mais en même temps, le cadre, ça a aussi été une intrusion massive dans le système éducatif, des certifications et d'une certaine conception de la certification où finalement l'évaluateur n'est pas l'enseignant. Hein, donc c'est aussi une dépossession pour les enseignants de leur rôle et de leur responsabilité d'évaluateur. Par exemple, pour le DELF, les évaluations ne sont pas forcément construites par les enseignants. Hein, donc c'est voilà.
Et pas contextualisées du tout.
Bon, etc., etc. Vous savez ça, vous le vivez au quotidien. Donc tout ça pour dire que c'est pas du tout dans une perspective cette présentation-là. C'est pas du tout quelque chose d'évolutif dans le sens où on en serait maintenant à ce qui s'appellerait la problématique du sens. Mais en tout cas, dans les discours théoriques et de recherche sur l'évaluation, c'est un paradigme qui est en train de s'élaborer, donc avec l'idée de faire la priorité au processus, avec tout ce que ça a de compliqué dans le sens où les processus sont invisibles, hein, et où, du coup, comment on fait pour évaluer ce qu'on ne peut pas observer et ce à quoi on n'a pas accès. Avec quelque chose qui me semble important, mais qu'on a dit sans utiliser le mot, mais je pense qu'il transparaît un peu dans ce qu'on a fait ce matin sur le blason, c'est la centration sur la posture, c'est-à-dire que finalement, les pratiques sont importantes, les outils sont importants, mais ce qui compte aussi, c'est de travailler en tant qu'évaluateur, sa posture d'évaluateur, donc tout ce qu'on a dit autour de la bienveillance, ce qu'on avait dit nous aussi dans le groupe autour de l'exigence, de l'éthique, etc. Donc c'est pas seulement de trouver les bons outils, mais c'est aussi de travailler à la manière dont on les met en œuvre, la manière dont on se positionne vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'institutions, etc. Donc on est dans une approche qu'on dit complexe. Je passe sur herméneutique et éthique qui rime. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer aussi ça. C'est un je ne sais pas si vous voyez très bien, on ne va pas tout lire parce que ce n'est pas tellement ce qui m'importe. C'est un diagramme que j'ai repris chez Vial, Michel Vial, le diagramme vous l'aurez et puis la référence de Michel Vial vous l'aurez dans la bibliographie qu'on vous mettra à disposition sur votre clé USB. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il oppose finalement un paradigme qu'il appelle mécaniciste, donc dans lequel l'évaluation est pensée de manière positiviste. Je pique quelques mots, hein, analytique, c'est-à-dire que pour pouvoir évaluer par exemple une compétence ou la complexité, on pourrait en fait découper en tranches le réel et puis il suffirait d'évaluer comme ça se fait, ne serait-ce que pour la langue, on évalue la syntaxe, on évalue la morphologie, on évalue ci, puis ce serait censé rendre compte de l'ensemble. Donc de manière analytique, de manière disjonctive et avec l'idée que finalement l'évaluation c'est une technique. L'autre paradigme qui est appelé holistique, c'est un paradigme dans lequel l'évaluation est plus pensée en termes ce qu'il appelle le brin du reste ou le n'importe quoi. Je ne sais pas si on peut forcément aller dans ces termes-là, mais en tout cas, qui reconnaît à l'évaluation une place au flou, à l'imprévu, à l'inobservable, au processus, au qualitatif. À ce qu'il appelle le « et », c'est-à-dire d'essayer de penser en « et » et pas en « ou », pas de découper la réalité en morceaux qu'on évaluerait les uns à côté des autres. Donc ça, c'est une première chose qui me semble intéressante. Ce qui me semble intéressant, je finis juste là-dessus, surtout, c'est ce qu'il appelle le conflit, c'est-à-dire de montrer que chacun en nous, en tant qu'évaluateur, on est ce qu'il appelle un mélange des deux brins, c'est-à-dire qu'on n'est jamais totalement dans l'un ni totalement dans l'autre, et que, ne serait-ce que par l'institution, on est bien obligé de composer avec les deux, et puis parce que chacun de nous, on est un peu des deux à la fois, à des degrés variables, dans des situations qui elles-mêmes supposent qu'on les mette en œuvre à des degrés variables, de manière évolutive dans notre vie, de manière évolutive aussi en fonction de avec qui on est, quel type d'encadrement, quel type de contexte, etc., etc. Donc il me semble que ça, c'est intéressant. Je suis pas sûre que à utiliser en tant que tel en formation avec des enseignants, ce soit forcément intéressant parce que c'est en même temps assez jargonnant. Mais je trouve que dans cette idée du conflit et du mélange des deux brins, il y a une dimension de déculpabilisation qui me semble intéressante et nécessaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire il faudrait être comme ci ou il faudrait être comme ça. Mais dans les faits, on a un peu de tout ça. Et la question, c'est comment on se débrouille avec ce mélange-là et comment on l'agit aussi et comment on n'en est pas seulement les produits, quoi. Et je crois que le terme, alors bon, le terme d'herméneutique, moi quand je l'utilise avec les étudiants en M1, en général, ils bondissent au plafond parce qu'il y a plus de deux syllabes et qu'il y a un H. Mais au-delà de ça, herméneutique, on pourrait le remplacer par interprétatif, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça remet l'enseignant, mais aussi les élèves, parce qu'on peut aussi le penser en termes de co- et d'auto-évaluation, au centre, et c'est totalement différent du discours dans lequel, finalement, le seul capable de mettre en place des bonnes évaluations, c'est l'expert, parce que c'est le seul qui sait calibrer, etc., etc., quoi. Donc là, on est vraiment avec l'idée que, finalement, on interprète au quotidien dans l'action, et je crois que ça, c'est important à souligner, de manière subjective. C'est-à-dire
Et la question de la subjectivité qui est soulevée là, je pense qu'elle est très importante. Et moi, je la lis à ce que vous dites de ce qu'on pourrait repérer comme une expertise pragmatique des enseignants sur le terrain qui l'acquiert au bout d'un moment. C'est-à-dire quel statut on donne à l'impression, l'intuition, le feeling de l'enseignant. Quel statut on lui donne dans l'évaluation ?
J'allais dire qu'il se construit, mais aussi qu'il se construit à condition que l'enseignant se l'autorise. C'est-à-dire que la pression de l'institution sur le fait qu'il faut que ce soit objectif, des parents aussi, et même des élèves parfois, pour que ce soit objectif, prouvable, etc., fait que l'enseignant s'autorise du coup pas forcément à exprimer cette part de feeling.
Alors, il y a un collègue de sciences de l'éducation, pas dans, du tout dans le domaine des langues ou de l'évaluation particulière, qui a théorisé cette notion d'expertise pragmatique en regard avec une forme de noviciat. Hein. Et notamment, il montre par ses recherches comment des éléments qui sont de l'ordre du sensible, du rationnel sensible et ces espèces de croisements paradigmatiques font qu'il y a un moment, on sait, l'enseignant lui-même ne sait pas pourquoi il dit ça, mais il sait qu'il a il n'a pas forcément tort quand il le dit. Hein, notamment quand il dit, un élève, oui d'accord, faudrait le laisser parce que ça fait un an qu'il est là, mais moi je pense qu'il faut continuer. Ou celui-là, oui, ça fait 9 mois seulement, mais j'ai pas besoin de continuer. Il peut se débrouiller. Oui, mais objectivement, il sait pas. Oui, mais si quand même. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'autorise justement à se reconnaître, mais pas seul, parce qu'il y a aussi des dérives possibles de sensations de pouvoir ou d'expertise excessive, donc dans un collectif. Quelqu'un voulait intervenir ? Marie-Odile et Régis, je crois.
Et puis après, peut-être qu'on pourra...
Oui.
Le statut des descripteurs dans le cadre, de toute façon, il est extrêmement ambigu parce que, en même temps, ça a été pensé comme un outil d'harmonisation, de pilotage, de création d'une sorte de langage commun, comme tu dis, finalement, pour réguler son action, entre autres dans la classe, mais surtout du point de vue institutionnel. Et en même temps, historiquement, ça a été, dès la rédaction du cadre, ça a été en même temps tout de suite trusté par les organismes de certification. Donc il y a dès le début cette espèce de recouvrement et à la limite parfois je pense de conflit d'intérêts quoi. Enfin, à la limite on va dire c'est parce que je suis politiquement correcte mais le conflit d'intérêts.
Fabrice voulait intervenir et puis après peut-être on va passer aux autres ateliers.
Surtout peut-être que...
On peut même aller plus loin. Hein, je me permets de répondre sur le DELF scolaire, c'est-à-dire que le DELF scolaire, quelle est sa zone de pertinence? En français langue seconde, dans une visée intersectionnelle, quoi. Franchement, quelle est sa zone de pertinence? Les épreuves ne sont pas pensées en termes d'insertion scolaire, sociale, au-delà d'une réussite linguistique. Donc, sincèrement, on commence à travailler dessus parce qu'on se pose vraiment la question.
Enfin, c'est-à-dire qu'on commence à y réfléchir en se disant que ça fait tellement masse qu'il faut qu'on y réfléchisse en termes de recherche. Ouais.
Je sais pas à la hauteur de la pression que mettent les enseignants avant pour leur dire « Ah, symboliquement, c'est important. » Donc forcément, ça devient important. C'est comme la note. Si on dit aux enfants, oh, c'est très important d'avoir une bonne note, évidemment, ils vont trouver que c'est très important d'avoir une bonne note. Enfin, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, parce que je pense qu'effectivement, je suis trop radicale par rapport à ça. Mais en même temps, on peut se poser la question de cette...
C'est-à-dire que, là, je vais me placer du point de vue du chercheur, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas été interrogé. Voilà. C'est-à-dire qu'on trouve ça dans la littérature.
Donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question en termes de recherche, d'aller voir ce qui se passe vraiment entre deux représentations de chercheurs, anciens praticiens qui ont des convictions, mais qui sont pas, qui se positionnent pas forcément comme chercheurs à ce moment-là, et des éléments de chercheurs.
C'est ça, c'est-à-dire que pour l'instant, on a... Enfin,